il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une nécessité.
We want people to know that it's everyday people who change the world.
Nous sommes Radia, Maud, Floriane et Marie. On est musulmanes, juives, agnostiques et catholiques. On a parcouru le monde à quatre pendant 10 mois et à travers 13 pays.
I'm Brazilian.
In Los Angeles.
Mexico.
South Africa.
Habitant de l'île Maurice.
In Uganda.
Indonesia.
C'est ça la Calédonie.
On a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent ensemble.
Eu sou Patrícia Tomaski.
Me chamo Josafat.
Graciela. Elias.
My name is Parker.
Jason Chu.
Jaffa.
Moi c'est Anouchka.
Bert.
Naftar.
Esme Monarouk.
Tamar.
Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix ensemble.
Salut! Gros bisous! Merde, non, c'était pas mal.
Salut!
Et comme on dit ici,
Kimanié!
Et comme on dit ici,
bonjour!
Et comme on dit ici,
hello!
Moi c'est Floriane et aujourd'hui on vous emmène à Maurice. L'arc-en-ciel est superbe, mais il est bien éphémère et peut disparaître bien vite. Tout comme la paix à Maurice. Ces mots, cette métaphore de l'arc-en-ciel, on les a entendus un peu partout et ça nous a fait réfléchir. Ça peut exploser à tout moment, nous a même dit à demi-mot une mauricienne. Pourtant, Maurice, c'est une petite île à l'est de Madagascar, pas loin de la Réunion. Elle est connue pour ses paysages paradisiaques, sa nature, et pour être un exemple de vivre ensemble. Alors, il fallait qu'on y aille, qu'on comprenne les enjeux et le contexte. Pour mieux comprendre le multiculturalisme mauricien, on est tout d'abord parti faire ce qu'on appelle du toquage aux portes, vers les différents lieux de culte. Au départ, avant les colonisations successives, il n'y avait personne sur cette île. Les premiers colons étaient hollandais, puis ce sont les Français qui s'y sont installés. Les Français mettent alors en place une agriculture grâce au travail gratuit des esclaves. Les descendants d'esclaves sont souvent chrétiens et sont appelés les créoles, et les descendants des colons, des franco-mauriciens. Puis, les Anglais arrivent au 19e siècle, et Maurice devient indépendante en 1968. Aujourd'hui, les descendants des franco-mauriciens, les créoles et certains descendants de l'immigration chinoise font partie de la communauté chrétienne de l'île. On est donc parti toquer à la porte de la cathédrale Saint-Louis, dans la capitale, à Port-Louis.
Bonjour. Vous travaillez ici ?
Maud.
La cathédrale Saint-Louis de Port-Louis, c'est une immense cathédrale, assez grise, assez austère, avec un grand jardin à la française devant. On a rencontré une dame qui nous a un peu expliqué l'histoire de cette cathédrale et l'histoire de cette communauté. Elle a été construite au XVIIIe siècle et elle ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver en Europe.
Et ici, c'est la cathédrale de Port-Louis, la cathédrale de Saint-Louis. Et ici, on a plusieurs religions qui viennent prier le matin, l'après-midi.
Marie. La dame qui nous a accueillis nous a expliqué qu'il y avait des personnes de différentes religions qui venaient prier dans cette cathédrale, qu'elle était ouverte à tous et à toutes. Elle nous a aussi parlé des mariages mixtes et que c'était un sujet pour les différentes communautés religieuses. La communauté chrétienne n'est pas la communauté majoritaire à Maurice. D'après les statistiques officielles, ce sont les hindous. Les Anglais ont pris l'île et avec la fin de l'esclavage en 1835, ils mettent en place une immigration de masse de travailleurs sous contrat pour venir labourer les cannes à sucre. On les appelle les travailleurs engagés. Ils venaient principalement d'Inde, ce qui explique le nombre important d'hindous présents sur l'île. On est justement allé voir un temple et un lieu hautement sacré pour elles et eux. Radia.
En vrai, on connaissait pas grand-chose à l'hindouisme avant de venir à Maurice. On savait qu'on était sur l'île au moment du pèlerinage qui s'appelle Mahashivaratri, et on en a profité du coup pour aller poser des questions au sein d'un temple dès qu'on est arrivé. On connaissait rien des rituels, donc on a essayé de retirer nos chaussures comme ce que faisaient les autres fidèles du temple, et on a attendu de pouvoir discuter avec une personne. On est tombé sur Kishen, qui est bénévole au sein du temple de Grand-Bay. Et trop cool, il a pris vraiment le temps de tout nous expliquer, il nous a montré les différentes statues et surtout il nous a expliqué ce que signifiait le pèlerinage pour les communautés hindoues de l'île. Il nous a parlé notamment des différentes divinités qui étaient célébrées pendant ce pèlerinage et il a fait le parallèle avec les divinités qui étaient dans le temple. Après ça, on lui a demandé s'il était impliqué dans le dialogue interreligieux et là, Il nous a parlé de son engagement au sein du scoutisme. Et d'ailleurs, il est engagé au sein du scoutisme chrétien alors même qu'il est hindou. Et c'est là que ça lui a permis de rencontrer des personnes de différentes convictions.
Marie. Kishen nous a aussi parlé d'un incontournable au cœur de l'île. Effectivement, dans un paysage boisé avec peu d'habitations, se cache le lac de Ganga Talao. C'est le lieu le plus sacré pour les hindous et il est désigné par « grand bassin » en français. Quand on arrive là-bas, on est accueilli par deux immenses statues de 33 mètres. 33, c'est un chiffre saint dans l'hindouisme. Et les statues représentent Shiva et Durga. Durga, c'est une déesse. Et cette statue, c'est la plus grande statue de cette déesse au monde. Autour du lac, on trouve un temple qui est dédié à Shiva, des statues de toutes les divinités et des lieux où on dépose de l'encens, des offrandes alimentaires et des fleurs. Il faut même sonner à une cloche pour signaler son arrivée. Satish, le grand prêtre du temple, nous a expliqué que le pèlerinage a commencé en 1897 après les songes d'un prêtre hindou qui voyait s'y refléter les eaux du Gange, le fleuve sacré en Inde. La fête de Mahashivaratri, qui signifie la nuit du Seigneur Shiva, a eu lieu le 1er mars cette année. On a eu l'occasion d'observer des processions où les personnes viennent depuis chez elles, font les retours à pied en portant des autels en bois décorés. Ils sont immenses et en général, les personnes chantent. Ces processions convergent vers Grand Bassin pour ramener de l'eau du lac sacré à leur domicile et leur permettre de procéder à des séances de prière en famille. C'est un lieu qui rassemble tous les courants de l'hindouisme et c'était hyper intéressant de découvrir les différentes représentations.
Cependant, les populations indiennes, qu'on appelle indo-mauriciennes, descendantes de ces travailleurs engagés, ne sont pas seulement hindous, mais sont aussi musulmanes. Alors, on est allé à leur rencontre. On est allé à la mosquée Jumma à Port-Louis. C'est une belle mosquée qui date des années 1850 et qui combine l'architecture indienne, créole et musulmane. En cherchant une personne responsable du lieu, on a rencontré Muhammad. Il nous a raconté l'histoire du lieu, l'engagement de l'imam et de la mosquée dans l'interreligieux et son engagement personnel sur ces questions. Il y a des leaders de la mosquée qui sont engagés dans le conseil des religions de Maurice et Muhammad nous partageait le fait que pendant les cours coraniques, les enfants étaient sensibilisés aux autres religions. Enfin, en même temps que les Indiens, des personnes chinoises se sont installées sur l'île et ont amené avec elles le bouddhisme. Pour résumer, sur cette petite île coexistent des franco-mauriciens, des sino-mauriciens, des indo-mauriciens et des créoles. Toutes ces communautés semblent assez bien cohabiter, mais on a étrangement l'impression que si on met de l'huile sur le feu, tout est prêt à s'embraser. Alors, après avoir pris la température, on est parti à la rencontre de personnes engagées, sur le terrain, pour faire dialoguer ces communautés. On est parti à la rencontre d'une des institutions les plus connues à Maurice, le Conseil des religions. Radia.
Et c'est Révérend Eddy qui nous a accueillis.
Alors, je suis Eddy Chongsi, prêtre anglican.
Et c'est le secrétaire général exécutif du Conseil des religions, l'organisation institutionnelle et interreligieuse clé de l'île Maurice. Eddy a une vision lucide de la situation du vivre ensemble et nous a partagé les fragilités de ce vivre ensemble et l'incapacité d'inclure les minorités sociales, économiques et même raciales. Au sein de ce conseil interreligieux, néanmoins, les activités sont super nombreuses. Le conseil a mis en place des actions de sensibilisation pour lutter contre le sida notamment, mais aussi un projet universitaire de certificat interreligieux et construction de la paix. Ils font des prières, ils écrivent des communiqués et ils sont aussi appelés pour résoudre des conflits dans les différentes communautés. Ils font même des interventions en milieu scolaire.
Marie.
C'est Nancy qui nous a mis en lien avec Eddy. Eddy et Nancy, c'est vraiment la paire exécutive du Conseil des religions. Donc lui est anglican et elle est bahaï. Donc je trouvais ça intéressant comme duo au service de ce conseil. C'est vraiment, du coup, les personnes qui sont engagées sur le terrain, on sent qu'ils et elles sont passionnées. Lui est un peu speed et elle plus posée, donc ils se complètent bien. Et on sent vraiment qu'il et elle sont au service. Un conseil d'Eddy qui m'a marqué, c'était qu'il fallait apprendre à se décentrer.
L'interreligieux, comme je vous dis, c'est se décentrer. Tout en gardant sa spécificité, hein. On ne peut pas nier, je suis chrétien. Hein. d'origine chinoise, mais je suis chrétien.
De se poser la question de qui suis-je et comment mon identité rejaillit dans une société mauricienne plurielle.
Qui suis-je, anthropologiquement, et en gros, au niveau sociologique, comment mon identité rejaillit dans une société mauricienne plurielle.
Eddie nous a aussi parlé des différentes manières dont sont considérées les langues. Par exemple, pour écrire, il faut utiliser l'anglais. Pour pouvoir s'adresser aux institutions, il faut parler français. Par contre, quand on rencontre une personne pour la première fois ou dans la rue, c'est le créole qui sera utilisé.
Radia.
Eddie fait des blagues tout le temps, et des blagues qu'on n'entend pas de la part d'un clergé d'habitude. Il est même triste de ne pas pouvoir les faire avec tous les membres du conseil interreligieux, et franchement, on a bien rigolé au déjeuner qu'on a eu avec lui. Il a aussi dénoncé pas mal l'hypocrisie qu'on pouvait trouver dans le milieu interreligieux et l'importance d'aller en profondeur sur ces sujets.
We must move from polite conversations to a truthful conversation concerning religions.
Ils nous ont pas mal parlé du diplôme qu'ils mettaient en place pour former des jeunes aux études de paix. Alors, on est allé à la rencontre de celui qui en est en charge.
Alors, je suis Asagan Chengana, je suis formateur, enseignant-chercheur à l'Université de Maurice et j'interviens aussi comme coordinateur dans le programme de Peace and Interfaith Studies qui est offert au niveau d'un diplôme à l'Université de Maurice.
Marie.
On a pu rencontrer Asagan sur recommandation de Eddie et il était très occupé, mais il était intéressé par le fait que notre programme soit éducatif. Donc il a bien voulu nous accorder 45 minutes d'entretien pendant une période d'examen à l'université.
Alors, on y va. J'espère que ce ne seraient pas des questions difficiles. Hein.
Le programme qu'il porte, il a été lancé conjointement par l'Université de Maurice et par le Conseil des religions, avec la possibilité d'obtenir un certificat et un diplôme à la clé. L'objectif du programme, c'est de maîtriser la communication et de comprendre quels sont les enjeux autour de la paix. Pour cela, il y a non seulement des cours, mais aussi des visites guidées pour pouvoir, comme il dit, se frotter à la différence, pouvoir devenir des ambassadeurs, voire des artisans et des artisanes de paix. Donc parmi ces modules, on peut y apprendre la résolution de conflits, la médiation, la communication non violente ou la philosophie.
Floriane.
J'ai adoré cet entretien avec Asagan parce que je l'ai trouvé humble. Il nous partageait son analyse et ses réflexions sans langue de bois.
Maude.
Asagan, il a une superbe définition de la paix.
La paix, c'est aussi le besoin d'être respecté et d'être traité avec toute sa dignité, quoi. Donc d'être reconnu en tant que soi, quoi. Peu importe que ce soit les migrants ou ceux qui sont d'orientation sexuelle différente ou éventuellement ceux qui sont marginalisés historiquement, ce qui serait important de comprendre, c'est qu'il faut les reconnaître, quoi. Il faut les reconnaître, c'est de leur donner de la visibilité et de leur donner la parole, quoi. Un des obstacles à la paix, c'est l'injustice, quoi.
Pour lui, la paix, c'est la reconnaissance de la dignité de chacun. Et il a ajouté que c'est pas l'absence de conflit. Que, en fait, la démocratie, c'est justement le conflit institutionnalisé.
Quand on est dans un cadre démocratique, les conflits sont importants. Que quelqu'un puisse faire entendre sa voix et que cette personne puisse être écoutée, c'est une méthode dans la résolution des conflits.
Et c'est peut-être la force de l'île Maurice qui est un des pays les plus démocratiques au monde, c'est de reconnaître en chacun sa dignité.
Marie.
Asagan a eu beaucoup de phrases hyper fortes qui m'ont marquée. La première, c'est une phrase qu'on entend aussi pas mal à coexister, qui dit « la paix, ça s'apprend ». Il dit aussi que par rapport à la paix, à Maurice, il faut être optimiste, mais aussi se donner les moyens d'être optimiste. Qu'il faut allier les propos à l'action, que l'arc-en-ciel, c'est éphémère, c'est bien, mais que concrètement, il ne faut pas prendre la paix à la légère. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'il nous a dit que quand on enseigne l'interreligieux, on a l'impression d'être à contre-courant. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir ou qu'on peut ressentir aussi quand on est engagé à coexister ou dans l'interreligieux et l'interconvictionnel. Et donc, il faut être du côté de la résistance. Un des défis dont il nous a parlé, c'est justement de se dire comment on peut toucher plus d'étudiants, plus de personnes. Et vraiment, j'ai eu l'impression que nos enjeux et nos questionnements se croisaient à ce moment-là.
Parce qu'à la fin de ce module-là, l'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui bloque au niveau de la société, quelles sont les barrières qui empêchent en quelque sorte la paix, et comment est-ce que nous, à notre niveau individuel, mais à notre niveau aussi collectif, on pourrait créer les conditions pour que ces obstacles soient enlevés et que la paix puisse régner, quoi.
Azagan nous a expliqué que beaucoup de minorités étaient discriminées, notamment les personnes LGBTQIA+, les créoles, les femmes. Alors, on est parti voir une activiste qui travaille justement sur la question.
Maud.
Alia est directrice du Centre des Dames Mourides et est très engagée au sein du Conseil interreligieux. Le Centre des Dames Mourides s'occupe de la sensibilisation contre le cancer du sein et contre les violences de genre qui existent à Maurice. Alia est musulmane soufie et est intéressée particulièrement par le droit des femmes et le dialogue interreligieux.
Depuis mon enfance, j'ai côtoyé des personnes de toutes les religions et de toutes classes sociales. Et pour moi, c'était comme si une mode de vie.
Au sein du conseil interreligieux, c'est l'une des seules femmes. Et elle a dit que c'était pas toujours facile, en fait, d'être dans ce conseil. Et que peu à peu, elle a pris la parole.
Il faut que la voix de la femme soit écoutée.
Elle a commencé des recherches sur l'interreligieux à Maurice. Et elle s'est rendue compte, lors de ses recherches, que les gens se connaissaient, mais connaissaient pas vraiment la religion de l'autre. C'était assez superficiel.
On a tendance à croire que comme on vit l'un à côté de l'autre, on se connaît bien. Mais quand j'ai fait les recherches, j'ai vu qu'on a une idée très superficielle des religions des autres.
Elle a organisé des conférences, notamment sur la paix et les religions, sur les femmes et les religions. Elle a écrit des livres en ce sens. Et elle explique qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses lois pour protéger les femmes à Maurice, mais que les mentalités et les pratiques, elles n'ont pas encore changé. Et c'est pour ça qu'elle met en place toutes ces actions pour le droit des femmes. Et elle va même commencer des ateliers de sensibilisation pour les communautés contre les violences domestiques.
Marie.
Ce qui a été frappant par rapport à Alia, c'est que Radia a pu trouver justement son travail grâce à une conférence à laquelle elle a participé qui s'appelait « Le vivre ensemble à l'île Maurice, mythe ou réalité ». Donc je trouve ça hyper fort de se poser la question de manière aussi cash.
Mais comme je vous dis, c'était ma passion, je voulais comprendre la société mauricienne.
Et j'étais impressionnée par son travail de recherche et notamment dans son écrit, elle parlait de beaucoup de recommandations et la principale, c'était justement de pouvoir agir dès l'école.
Floriane.
Alia m'a beaucoup impressionnée par son parcours et toutes les activités qu'elle a mises en place.
Ce n'est pas seulement en organisant un programme interreligieux, une fonction interreligieuse, qu'on fait l'interreligieux, c'est-à-dire qu'on organise beaucoup d'autres activités, mais en mettant l'accent sur l'importance d'avoir des personnes de toutes les religions qui sont présentes. Et en même temps, on tisse les liens, on discute. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces moments-là.
Elle a une passion et une curiosité innée pour l'autre, pour la diversité à Maurice. Pour elle, c'est clair qu'il faut aller plus loin que la simple tolérance. Avoir des amis de différentes convictions, c'est bien, mais si on ne connaît pas leurs pratiques, leurs fêtes, ça ne suffit pas.
Par exemple, moi je suis musulmane, j'ai beaucoup d'amis hindous. Un jour, il y a un musulman qui était venu d'un pays africain, il m'a demandé c'est quoi les Diwali. Vous savez les Diwali, la fête des lumières, des gâteaux, tout ça. Et moi, je ne pouvais pas lui répondre. Il m'a dit, tu as des amis hindous, tu ne t'es pas posé la question. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai, on ne connaît pas.
Elle a insisté plusieurs fois sur le fait que le dialogue interreligieux, ce n'était pas juste un concept dont on devait discuter, mais quelque chose à vivre, à incarner au quotidien. Que le symbole compte beaucoup aussi. Quand elle va faire des distributions alimentaires dans des quartiers hindous, en étant visiblement musulmane avec son foulard, elle voit dans le regard des gens l'impact que ça a, qu'une action de solidarité vienne d'une personne d'une autre communauté.
Maud.
Elle cite elle-même le Coran où Dieu dit « Si j'avais voulu, j'aurais créé une seule communauté » et il rajoute « Je vous ai créé afin que vous fassiez connaissance ». Et avec cette sourate, elle a eu un déclic. Elle s'est dit « En fait, c'est pour ça qu'on est multiples, c'est pour ça qu'on est divers et c'est Dieu qui nous a créés comme ça ». Et elle a compris que c'était un devoir pour elle d'aller vers l'autre et d'aller à la rencontre de l'autre.
Le dialogue interreligieux, c'est pas un slogan, c'est quelque chose que je vis et j'élève mes enfants avec ça.
Alia est en train de mettre en place des ateliers un peu partout pour le droit des femmes et contre les violences basées sur le genre. Elle croit profondément dans l'éducation et c'est ce qu'on a trouvé chez Coralie et Anoushka du Centre Bahaï. Elles sont certaines que c'est les jeunes qui vont changer les choses.
Radia.
Anoushka et Coralie font toutes les deux partie du bureau pour les affaires externes de la communauté Bahaï de l'île Maurice. Elles ont à peu près notre âge et on a vraiment connecté lors de l'après-midi passé ensemble. Elles sont très impliquées sur la partie éducative de la communauté et ont à cœur d'accueillir des personnes de toutes les convictions au sein des activités organisées par la communauté.
Quand on est dans un système qui est interconnecté, tout le monde doit faire partie de la discussion. On ne peut pas manquer quelqu'un à la table parce que tout le monde est concerné ou fait partie du problème et donc tout le monde fait partie de la solution.
Maud.
J'ai appris plein de choses avec cet entretien, notamment plein de choses sur la foi Bahaï que je connais mal. notamment que la foi bahaï part du principe qu'il y a eu différentes révélations et reconnaît en fait les différentes religions comme différentes révélations de Dieu et rajoute aux religions qu'on connaît, aux personnes et aux prophètes qu'on connaît, deux personnes, Bab et Baha'u'llah. Et c'était hyper frappant de voir que dans cette foi, l'unité de tous et toutes était hyper importante. Et c'est aussi pour ça que la communauté bahaï est très engagée dans l'interreligieux.
Marie.
Ce qui m'a marqué dans cette rencontre de binôme entre Coralie et Anouchka, c'est quand elles nous ont parlé de la communauté bahaï que je connaissais pas beaucoup. J'étais marquée par le côté horizontal en fait de l'organisation, leur désir profond de nous faire découvrir justement leur foi et la notion de service très ancrée dans le quartier ou au niveau local. J'ai été aussi marquée par l'humilité de Coralie qui nous disait que, oh là là, moi j'ai pas beaucoup d'expérience et pourtant je trouvais qu'elle avait déjà compris vachement de choses.
Si vous avez un conseil à donner à des gens qui veulent s'investir dans le dialogue interreligieux, ce serait lequel ?
Désapprendre.
Unlearn and relearn.
Quelle est la seule barrière qui puisse exister à avoir des dialogues interreligieux ? C'est nos préjugés qui viennent de ce qu'on a appris, donc c'est très inconscient tout ça. Donc il y a un grand besoin d'être prêt à désapprendre pour pouvoir apprendre.
Ça fait du bien de rencontrer des jeunes qui nous parlent de leur engagement et des défis de la société mauricienne. Justement, on est allé à la rencontre d'une association qui aide les jeunes à devenir des actrices et des acteurs du changement.
Marie.
Global Peace Chain à l'île Maurice, c'est une organisation qui organise des gros événements, des conférences interreligieuses. Et leur objectif, c'est vraiment de construire la paix pour renforcer le leadership et le développement des jeunes. Donc pour cela, ils forment ce qu'on appelle des Peace Ambassadeurs, des ambassadeurs et ambassadrices de paix. Et leur but, c'est de lutter contre les discours de haine, contre les violences, les discriminations religieuses et les conflits grâce au dialogue. À travers ça, les ambassadeurs et ambassadrices de paix sont invités à organiser des actions dans leur village ou leur communauté. Donc on a rencontré Shelvin et Angie Sen. Et justement, Shelvin nous expliquait que dans son village de l'Escalier, il avait mis en place des randonnées, des ateliers sur la paix, des dons du sang. Et il soulève des problèmes locaux en mettant en lien les différents leaders religieux. Donc il les encourage par exemple à écrire une lettre commune, à être un relais au sein de leur communauté et à s'unir dans l'action. Quand on les a rencontrés, ils étaient en train d'organiser un gros rassemblement la semaine qui suivait, justement avec le but de parler de la paix au niveau national et du leadership des jeunes. Ils attendaient plus de 50 personnes et ils étaient très impatients.
Radia.
Moi j'avoue, j'étais un peu mal à l'aise pendant l'entretien, notamment parce qu'on a eu des discussions assez compliquées sur la justice sociale, avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord. Et ça m'a bousculée, donc c'est bien, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et notamment, les deux jeunes qu'on a interviewés considéraient que pour sortir de la pauvreté, c'était une question de volonté, une question de choix. Et j'avoue que c'est pas du tout comme ça que je pensais la pauvreté dans ce que j'ai appris ou ce que j'ai pu voir. Et c'est vrai que pour des personnes travaillant dans le social, pour la construction de la paix, j'ai trouvé ça assez rare.
Pour nous, la religion, c'est pas seulement faire de la prière, non. Mais aussi former des jeunes pour qu'eux, ils réussissent dans leur vie.
Marie.
C'est vrai qu'il y avait un côté un peu entrepreneurial dans la manière de voir les choses aussi, des personnes engagées au sein de cette association. J'étais touchée par l'aspect engagement au niveau local et d'empowerment des jeunes.
Pour résumer, pour nous, l'île Maurice, c'est...
Marie.
Alors, beaucoup de disparités et de différences de perception entre les personnes. C'était aussi, pour nous, une période des pluies et on a vécu un cyclone. Donc, c'était un peu flippant, j'avoue, même si on a vécu aussi des super moments. Notamment, c'était nos vacances. On a pu profiter aussi du paysage, des plages et d'un accueil assez incroyable. Même si, parfois, j'avais l'impression qu'il y avait toujours un petit flou dans les paroles des personnes, qu'il n'y avait rien de sûr, il y a un petit côté « bon, on verra ». Et j'étais en admiration devant les différents lieux de culte et interloquée par la question du mélange entre les mots « culture » et « religion ».
Maud.
Je retiendrai de Maurice l'accueil très chaleureux des différentes communautés religieuses et le lien entre religion et culture. J'ai été vraiment frappée par cette loi du silence où on ne veut pas parler des problèmes, on ne veut pas parler de l'extrémisme qui monte de tous les côtés dans la société. Et c'est vraiment dans les réunions informelles qu'on a pu avoir ces informations.
Radia.
Maurice, c'est aussi un paradis. C'est ce que tout le monde nous a dit en introduction à chaque fois qu'on posait la question « Alors, comment ça se passe à Maurice ?» Et pourtant, lorsqu'on creuse un peu, les personnes nous partagent que le vivre ensemble tient vraiment qu'à un fil. Il semble évidemment que la population souhaite que la paix sociale soit maintenue. Et donc que les problèmes de vivre ensemble, on a l'impression que c'est un peu un tabou dans la société.
Floriane.
Je dois reconnaître que déjà, ça m'a fait plaisir de retrouver un pays francophone après 4 mois de langue étrangère. Et aussi, je me souviens d'avoir eu un coup de cœur la première fois qu'on a marché à Port-Louis, la capitale, en découvrant le multiculturalisme de la ville.
L'île Maurice en chiffres, c'est aussi
une rencontre des jeunes de la mosquée Ahmadiyya de Rosil avec Shamim et Ayesha.
Une projection du documentaire « Vivre ensemble à l'île Maurice ».
Une visite spontanée du temple hindou et de la plus vieille pagode de Port-Louis.
Une visite du musée et mémorial à Pravasigat.
Une messe catholique.
Un article dans l'Express, journal national mauricien.
Un hébergement chaleureux chez Darrel et Abel.
4 heures d'avion et 36 tickets de bus.
8 jours de vacances, 2 randonnées et des plages de sable fin.
Un karaoké.
73 piqûres de moustiques et 3 gros coups de soleil, 16 mines frites, 8 mines bouillies et notre plus beau lever de pleine lune.
Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur notre étape mauricienne ? Rendez-vous sur notre blog sur www.interfaithtour.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode en Ouganda.
Incontournable au cœur de l'île dans un... Pardon.
Aubrey, j'ai fait un truc de magazine, je sais.
Désolée.
Au cœur des sentiers battus.